Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Entendez-vous l'écho, on emporte un masque et une crème solaire et on part voir la mer.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous entamons aujourd'hui notre dernière série de l'année et elle se déroulera en partie sur les rives de la Méditerranée, à l'ombre d'un olivier ou au sommet d'une montagne. Après le temps du confinement, voilà venu le temps des vacances, un temps attendu, espéré par des millions de Français, durement éprouvés par cette étrange année. Les professionnels du secteur, eux, redoutent l'effondrement de leurs recettes dans le sillage de la crise du coronavirus. Alors le tourisme national sauvera-t-il cette industrie indispensable à l'économie tricolore? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture et c'est l'heure oisive d'Entendez-vous l'écho. Avant de sillonner l'Europe demain et d'embarquer à bord d'un long courrier mercredi, nous parcourons aujourd'hui l'Hexagone en compagnie d'Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, au PME et au tourisme, avec nous en studio, et de Saskia Cousin, anthropologue, maîtresse de conférences à l'Université de Paris, qui est avec nous à distance. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue dans Entendez-vous l'écho.
Bonjour.
Alors le secteur du tourisme, qui représente un peu plus de 7% du PIB en France, a été particulièrement touché par la crise sanitaire. L'été qui vient sera déterminant, Hervé Novelli ?
Ce qui est sûr, c'est que cette industrie exceptionnelle en France, qui est l'industrie touristique, a été frappée de plein fouet parce que ça a été une décision administrative de fermeture qui a été prise à l'encontre d'une des principales activités, qui est la restauration. Alors l'hôtellerie n'a pas été frappée de fermeture, mais les clients ne se sont pas bousculés dans les hôtels. Et au total, l'activité s'est arrêtée. Et c'est donc une perte de quasiment 100% du chiffre d'affaires qui a été enregistré pour cette branche majeure de l'économie nationale. Et maintenant, le sujet, parce que l'État a fait ce qu'il devait, c'est-à-dire a vraiment mis le paquet.
Un plan de soutien d'1,5 milliard d'euros.
Oui, et au-delà, toutes les mesures qui ont été prises et prolongées pour l'activité, pour la branche touristique, je pense au chômage partiel, je pense à l'exonération des charges, qui n'a pas été un simple rééchelonnement, je pense aux prêts garantis par l'État. Tout cela, au final, a empêché que toute cette activité ne périclite. Maintenant, le sujet majeur, c'est de savoir comment on va faire pour aider ce secteur a démarré, puis à reprendre son rythme de croisière, ce qui est bienvenu ici, parce que c'est majeur pour l'économie nationale.
Aider ce secteur à redémarrer, c'est d'autant plus important, Saskia Cousin, que la période qui vient est une période évidemment centrale pour le tourisme.
Oui, tout à fait. Alors aider le secteur, c'est aussi aider ceux qui peuvent aller dans les hôtels, les restaurants, aller en vacances. Et donc là, il y a un enjeu majeur qui est de permettre pour les Français, c'est une politique sociale, mais aussi pour l'économie aux Français de partir en vacances, puisque avec la fermeture des frontières, les touristes étrangers vont être très peu à venir, a priori, même s'il y a une réouverture, les données ne prévoient pas un retour massif des touristes étrangers. Donc il y a un enjeu majeur donc de réouverture des commerces, mais aussi de permettre à ceux qui ont été très lourdement impactés par économiquement, dans leur salaire, de pouvoir partir en vacances et fréquenter les restaurants, les hôtels, les centres de vacances, se déplacer en France.
Et on va voir effectivement si une politique sociale du tourisme pourrait se développer ou peut-être se renforcer. Mais d'abord, le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a appelé il y a quelques jours les Français à rester dans l'Hexagone pour les congés d'été. Mais est-ce que les touristes français peuvent compenser entièrement le manque à gagner des visiteurs étrangers, Saskia Cousin ?
Alors ça dépend ce que vous appelez manque à gagner et puis pour qui. De toute façon, il y a quelque chose qui est structurel, c'est que ça dépend des années, mais disons qu'entre 70% et 80% des Français partent en vacances en France. Donc là, peut-être qu'on va venir à 90% des Français qui vont partir en vacances en France. Mais la pandémie a des effets économiques sur le marché de l'exportation qui est le tourisme, mais ça va pas fondamentalement, structurellement changer le mode de départ en vacances des Français. Par contre, ce que où vont aller les retombées économiques, où vont aller les consommations, là ça risque de changer puisque les touristes étrangers avaient des consommations dans des endroits assez particuliers, Paris, la Côte d'Azur, et donc étaient très concentrés sur certaines industries et certains lieux, ce qui est moins le cas pour le tourisme des Français en France, sachant que la moitié vont dans de l'hébergement non marchand et vont avoir des consommations un peu partout sur le territoire. Donc en fait les effets en termes de nombre, évidemment que les Français qui partiront en vacances en France en plus ne viendront pas compenser le nombre de touristes étrangers qui ne viendront pas. Mais en termes de retombées pour le territoire, c'est pas du tout la même chose si on regarde à la fin de l'été le chiffre d'affaires de l'industrie du luxe dans le cœur de Paris ou les retombées des chambres d'hôtes de caractère dans le Limousin, vous voyez. Donc toute une question de qu'est-ce qu'on regarde, comment on le comptabilise, et c'est ça qui est important, c'est de ne pas se focaliser sur certaines industries.
Ce ne seront pas les mêmes bénéficiaires de l'industrie du tourisme cet été, Hervé Novelli.
Ce qui est sûr, c'est que la France, elle est spécifique, et je m'en étais aperçu lorsque j'étais en charge de ce secteur, elle est spécifique parce que les Français sont ceux qui, par rapport à tous les peuples européens, se déplacent le plus dans leur pays. Ce qu'on appelle le tourisme intérieur, eh bien, il est le plus important en France. Donc, au départ, les Français restent en France. Donc, ça ne sert à rien, de mon point de vue, de les inciter à rester un peu plus. Du reste, ils vont le faire. Le dernier sondage montre que 87% de ceux qui envisagent de partir vont le faire dans notre pays. Et c'est très bien ainsi. Mais il faut toujours avoir présent à l'esprit ce modèle spécifique français qui fait que lorsque les choses vont mal, les Français restent encore plus dans le pays, et lorsque les choses vont bien, les étrangers viennent. C'est un modèle très vertueux qui est le modèle de l'économie touristique française, et c'est pour ça que ce modèle, il faut évidemment le protéger et le perdurer. Aujourd'hui, quelles sont les intentions des Français? C'est de rester un peu plus en France que d'habitude. Voilà. Et le dernier sondage le démontre. Alors, pour l'instant, ils affichent des intentions plus que des réservations. C'est un peu le sujet de
ce démarrage. Les réservations sont toujours assez
un peu tardives. Mais bon, on a déconfiné totalement il y a quelques jours, y compris l'Île-de-France. Donc il faut attendre encore quelques jours pour se faire une opinion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des actions à mener.
Et alors, justement, on va se demander, Hervé Novelli, avec vous et avec vous, Saskia Cousin, comment ce modèle touristique français s'est construit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire des vacances et du temps libre, c'est celle de la conquête d'un droit. À la fin du 19e siècle, le journaliste Paul Lafargue invoque un droit à la paresse dans un essai à l'ironie mordante. Et je vous propose d'en écouter un extrait.
Puisque le vice du travail est diaboliquement chevillé dans le cœur des ouvriers, puisque ces exigences étouffent tous les autres instincts de la nature, puisque la quantité de travail requise par la société est forcément limitée par la consommation et par l'abondance de la matière première, pourquoi dévorer en 6 mois le travail de toute l'année? Pourquoi ne pas le distribuer uniformément sur les 12 mois et forcer tout ouvrier à se contenter de 6 ou 5 heures par jour pendant l'année au lieu de prendre des indigestions de 12 heures pendant 6 mois? Assurés de leur part quotidienne de travail, les ouvriers ne se jalouseront plus, ne se battront plus pour s'arracher le travail des mains et le pain de la bouche. Alors, non épuisés de corps et d'esprit, ils commenceront à pratiquer les vertus de la paresse. En régime de paresse, pour tuer le temps qui nous tue seconde par seconde, il y aura des spectacles et des représentations théâtrales, toujours et toujours. C'est de l'ouvrage tout trouvé pour nos bourgeois législateurs.
Le vice du travail et les vertus de la paresse. Que vous inspire ce texte de Paul Lafargue, publié en 1880, Saskia Cousin? Paul Lafargue, c'est l'un des premiers à parler de la nécessité d'un bon équilibre entre travail et loisirs.
Alors, le premier, peut-être pas, parce que la notion de loisir, c'est l'osium dans le temps romain et le temps grec, et donc Lafargue parle de paresse, aller au spectacle, donc c'est pas tout à fait la paresse dans le sens où on l'entendrait à première vue. Et donc l'osium, c'est tout ce temps qui est un temps non productif, et dans le temps romain, c'est la politique, les arts, la philosophie, donc attention à pas, voilà, ce que propose Lafargue, finalement, c'est de revenir et de reprendre et de partager, en fait, ce qui était l'apanage des aristocrates des hommes libres, cette part d'osium, cette part de loisir qui permet aux hommes et bon, souvent pas, mais on espère aux femmes de s'élever. Mmh. Donc c'est la paresse pour les ouvriers selon Lafarge, c'est l'accès en fait à tout ce qui est le non-travail et notamment la culture, les arts.
Il y a cette idée d'une démocratisation de la culture et des loisirs ici, Hervé Novelli.
Ah bah dans le texte de Léon
de Paul Lafargue,
de Paul Lafargue, qui était, je crois, le beau-frère de Karl Marx.
C'est le gendre
de Karl Marx. Donc on voit bien quand même qu'il y a tout ça n'est pas totalement délié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait l'éloge de ce temps dans lequel on ne fait rien, où on se réserve le droit de ne rien faire ou de se cultiver. Bref, c'est intéressant. Mais la réalité de ce qui nous préoccupe, c'est plutôt 36 et la naissance des congés populaires, des droits aux congés. Et c'est ça, je crois, le véritable départ des vacances.
36, bien sûr, est une date phare. Les salariés français ont alors accès à 2 semaines de congés payés. Mais pourtant, en 1936, comme aujourd'hui, Saskia Cousin, tout le monde n'a pas les moyens de partir en vacances.
Oui, il y a d'abord un problème de moyens financiers. Je crois qu'en 36, il y a 500 000 billets qui sont vendus de train. Et donc, en fait, c'est très peu de gens qui vont effectivement partir. En fait, les vrais départs en vacances, ce qu'on a appelé la démocratisation des vacances, ça commence après la guerre. Et puis aussi, il y a le fait de profiter de ce temps libre. Parce que contrairement à l'industrie du tourisme qui va fonctionner comme le tourisme au sein duquel il y aurait des vacances, en fait, du point de vue des pratiques, on a un temps total et puis dedans, on a un temps libre au sein duquel il y a notamment le temps domestique, s'occuper des enfants, faire la cuisine, etc. Et puis des vacances où on va partir et à l'intérieur duquel un petit peu de tourisme. Donc ce que vont faire les ouvriers en 36 et puis pendant longtemps, hein, c'est profiter de ces moments pour se retrouver en famille, bricoler, construire des... avoir des jardiner, avoir des activités de voisinage, etc. Et ça fait partie intégrante de la paresse au sens de Paul Lafarge, le fait d'avoir des sociabilités.
Il ne faudrait pas confondre en effet le fait d'être en vacances et le fait de partir en vacances, c'est ce que l'on entend bien dans cet extrait du Rayon Vert d'Éric Rohmer.
Vous faites quoi pendant les vacances?
Moi, ouais, bah rien du tout, je suis rentier, je suis à la retraite. Alors je fais le ménage, c'est tout ce que j'ai à faire.
Mais je veux dire, vous restez à Paris, vous partez jamais?
Jamais, jamais. Avant, je partais de 2 mois, je partais dans le Jura. Je partais entre le col de la Faucille et la frontière suisse.
Ça vous est arrivé souvent de rester au mois d'août à Paris?
Oh bah vous savez, moi j'ai pris des vacances très tard parce que j'ai travaillé beaucoup. J'ai vu la mer pour la première fois, j'avais à peu près 60 ans quoi.
Ah bon?
Voilà. Les vacances, on n'avait pas beaucoup le droit quand vous travaillez tout seul dans une maison.
Ouais.
Moi je faisais le taxi, ben vous savez, il n'y avait pas à dire, faut prendre 2 mois de vacances. Alors j'ai commencé à prendre de grandes vacances chez une personne qui était à la campagne. M'occuper des bêtes, et puis elle, son petit jardin, puis moi je restais là-bas de bois.
T'aimais bien la montagne?
Non, j'aime pas la montagne.
Pourquoi t'aimes pas la montagne?
Parce que j'ai tellement l'habitude de conduire dans Paris, moi les fossés, ça me fait peur.
Parisien.
Je suis un vrai Parisien.
On est bien ici à Paris.
On est bien à Paris. Oui. Pareil, ici on a tout ce qu'il faut pour se promener.
On est bien à Paris, extrait du Rayon Vert d'Éric Rohmer, sorti sur les écrans en 1986. Aujourd'hui encore, selon un rapport de la Fondation Jean Jaurès qui a été publié au mois de juillet dernier, au cours des 5 dernières années, 65% des Français ont dû renoncer au moins une fois à partir en vacances pour des raisons financières. C'est pour remédier à ces inégalités que s'est développé le tourisme social dans la seconde moitié du XXe siècle, Hervé Novelli?
Certainement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inégalité en termes de vacances ou de loisirs, puisque vous avez rappelé ces chiffres. Aujourd'hui, ils ont un peu évolué. Aujourd'hui, il y a 59%, le dernier sondage, 59% des Français qui affichent leur désir de partir en vacances cet été. Les effets du déconfinement se sont liés à cette appétence pour les vacances. Mais grosso modo, on peut dire qu'un Français sur deux ne part pas en vacances. Et ça pose véritablement des problèmes. des problèmes qui sont encore majorés par le fait que les vacances ont évolué. Parce que là, on a le sentiment que les vacances, c'est encore la période 36, puis post-libération de notre pays, où chacun part, enfin ceux qui le peuvent, partent et vont bronzer sur la plage pendant 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Tout cela, aujourd'hui, a disparu. Ça a évolué. On ne prend plus les vacances comme on les prenait auparavant. On fragmente ses vacances, on les thématise. Bref, il y a une évolution forte dans laquelle demeure, malgré tout, la volonté portée par les pouvoirs publics, quels qu'ils soient du reste, de faire en sorte que le maximum de Français puissent accéder aux loisirs.
Mais il a fallu attendre tout de même 1998, Hervé Novelli, pour que soit inscrit dans la loi l'objectif d'un égal accès aux vacances.
Oui, je ne suis pas sûr que la loi ait changé grand-chose, parce que les pouvoirs publics le souhaitaient et chaque gouvernement a tenté, plus ou moins, en fonction de ses appétences propres ou de ses objectifs, de faire en sorte qu'il y ait plus de Français qui puissent partir en vacances.
Notamment par l'hébergement, ce qu'on appelle les aides à la pierre.
Oui, et puis par les soutiens au tourisme social porté par l'Agence nationale des chèques vacances qui joue de ce point de vue un grand rôle au-delà des chèques vacances, puisqu'elle, avec les profits tirés de ces chèques vacances, elle mène bon nombre d'actions sociales, de soutien, de subventions aux vacances pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça n'est pas négligeable. Mais s'il y a bien un défi qu'il faut relever aujourd'hui, c'est pas de revenir au tourisme social des années 50, 60 ou 70. C'est de faire en sorte que le tourisme social, qui aspire comme tous les touristes français, qu'ils aient de l'argent ou moins d'argent, à pouvoir bénéficier de ce que permet aujourd'hui le monde moderne, c'est-à-dire la découverte du tourisme durable, du tourisme environnemental, du tourisme œnologique, du tourisme sportif, événementiel. Cette thématisation, elle doit être ouverte à tous et pas uniquement à ceux qui peuvent se la payer.
On va voir effectivement comment ce tourisme social pourrait se réinventer. Mais d'abord, il y a le fait d'accorder des congés payés aux Français. Et puis ensuite, il y a l'organisation de ce temps libre, Saskia Cousin. Et ça, c'est un enjeu hautement politique depuis la fin du 19e siècle.
Oui, tout à fait. Alors, le tourisme social, c'est une petite partie des politiques touristiques et une petite partie, finalement, des politiques sociales du tourisme. Quand on regarde les financements par l'État d'aide au tourisme social, ça a toujours été très peu important. Dans les années 60, c'est 10 fois moins important, par exemple, que l'aide aux entreprises, à l'hôtellerie, pour rénover, en fait, l'hôtellerie. Donc, en fait, c'est vraiment un petit morceau. Jusqu'aux années 80, c'est ce qu'on appelle l'aide à la pierre. Donc, on soutient en fait notamment des syndicats, parce que l'organisation des vacances, que ça soit pour les enfants avec les colonies ou pour les travailleurs, c'est d'abord ça a d'abord été effectué par le monde syndical, puis aussi évidemment le monde religieux et puis les certaines municipalités. À partir des années 80, on a cette idée où on passe de l'aide à la pierre, donc soutien à la construction de centres de vacances, à de l'aide à la personne, donc on distribue, en fait, donc c'est les chèques vacances, on distribue des chèques, et donc là on passe à une politique de consommation, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il va où il veut avec ses chèques vacances.
Les aides sont plus collectives mais individuelles, ben, c'est ça ce qui maintenant change.
Voilà. Et donc ce qui a amené un certain nombre de problèmes, un certain nombre de syndicats, de comités d'entreprise ont pu conserver leur centre de vacances, pour d'autres non, puisque finalement ils étaient en concurrence immédiate avec l'offre commerciale. Donc ça a été une déstabilisation aussi du tourisme social, c'est-à-dire de l'offre de tourisme social qui avait un enjeu.
Alors on a perdu, je crois.
On peut critiquer, mais un enjeu d'éducation populaire, de culture.
Sur cet enjeu d'éducation populaire, on vous a entendu à nouveau, Saskia Cousin, on a eu simplement une petite rupture. C'est important, effectivement, cette question de l'éducation populaire. Il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics d'occuper ce temps libre avec cette idée que les vacances doivent être au service du travail, de la santé, de la culture, notamment chez les plus jeunes, Saskia Cousin.
Alors ça a été le cas jusqu'aux années 80. Il y a eu cet état aménageur, on a aménagé la France pour accueillir les touristes français ou européens, et puis il y a eu l'état animateur, donc on va dire de 1974 à 83, où il y avait ce ministère de la qualité de la vie, le ministère du temps libre, où là il y avait l'idée que l'état avait un rôle à jouer. Mais cette idée que les vacances ont une fonction sociale utile, éducation populaire, elle est bien antérieure, hein. Elle date de la fin du 19e en Allemagne, c'est l'invention des colonies de vacances. Les congrégations religieuses, les partis politiques, syndicaux, etc., ont toujours considéré que ce temps libre était un moment d'éducation, voire d'endoctrinement politique. Donc, à partir des années 70, ça devient, et pour une très courte période finalement, un enjeu, en se disant, bah voilà, c'est le moment où on peut faire de la démocratisation aussi, de l'accès à la culture. Ça le reste pour certains organismes syndicaux, hein, certains comités d'entreprise, la Caisse sociale d'action, enfin l'ancien comité d'entreprise d'EDF, c'est 1 million de bénéficiaires et c'est le premier employeur d'intermittents du spectacle en France. Donc en fait, il y a certains encore mouvements syndicaux qui fonctionnent comme ça. Mais l'État s'est très rapidement désengagé de cette question-là, puisqu'il a considéré que le tourisme était une politique commerciale, qu'il devait y avoir un soutien plutôt aux entreprises, c'est une politique de l'offre. Et puis récemment, depuis 2014, que c'était un problème de marché d'exportation en fait, et que il y avait ce désengagement là en termes éducatifs. Et ce qu'on voit revenir là aujourd'hui avec tout l'oxymore que ça peut supposer, ces vacances apprenantes, c'est finalement de se ressaisir de ce temps libre pour réencastrer des questions éducatives, mais pas du tout de la même manière que ça l'était dans les années 70, où on parlait bien d'éducation populaire et pas de rattrapage scolaire.
Avant d'en venir à l'été apprenant proposé par Emmanuel Macron, restons encore un peu dans les années 90. Dans cet extrait de Nos jours heureux, le film d'Olivier Nakache et Éric Toledano, le directeur de la colonie Jean-Paul Rouve, alias Vincent Rousseau, reçoit la visite impromptue des inspecteurs de jeunesse et sport.
Vincent, réveille-toi.
Qu'est-ce qui se passe?
Il y a deux personnes dans la cuisine, elles veulent te voir.
Tu n'as rien.
J'ai rien compris, elles disent qu'elles sont jeunes, qu'elles font du sport. Elles ont pas l'air comme eux.
Jeunesse et sport?
C'est ça, jeunesse et sport.
Oh putain.
Qui c'est?
Daniel, debout, tu réveilles tout le monde, je veux que tout soit clean, les chiottes, les douches, tout.
Attends, qu'est-ce qui se passe?
Tu fais ce que je te dis.
Bonjour. Vous n'êtes pas très matinal ici. Monique Vanier, jeunesse et sport. C'est mon collègue Gilbert Michaud, inspection vétérinaire.
Enchanté. Un petit café?
Non, nous voudrions procéder à l'inspection.
Je leur ai proposé un thé, mais ils n'ont pas l'air commodes.
Oui, ça va, Mimoun, je te remercie.
Bon, alors dans l'ordre, voilà le programme. On démarre par la cuisine, vérification des thermomètres des frigos et congélateurs, prélèvement de la dernière assiette témoin de moins de 72 heures. Pointage des étiquettes des emballages de viande et il nous faut tous les menus journaliers avec l'inventaire des commandes.
Tous.
Ensuite, on voit ensemble le registre de sécurité, la date de validité de tous les extincteurs, les diplômes de chaque animateur et on passe dans les chambres, réfectoires, parties communes sanitaires. Nous terminerons par étudier votre projet pédagogique et éducatif.
Peut-être un petit café, moi, finalement.
Je suis sur le coup.
La colonie de vacances vue par Nakache et Toledano. Un clin d'œil, Hervé Novelli, pour rappeler l'importance à une époque du rôle pédagogique des colonies de vacances.
Oui, c'est vrai qu'il y avait tout ce qui a été rappelé par l'autre intervenante, cette volonté de porter des vacances qui soient différentes. C'est-à-dire qu'il y ait une valeur ajoutée au-delà du simple fait de partir en vacances, valeur ajoutée éducative, politique, voire même d'encadrement. Et tout cela, bien sûr, c'est à maudier et je pense vraiment que c'est important qu'il n'y ait plus cela.
Mais il y a une volonté aujourd'hui d'y revenir quand Emmanuel Macron parle en effet de cet été apprenant. Est-ce que c'est un retour de cette volonté pédagogique?
Non, je crois que c'est simplement le souci de faire en sorte que dans ce qui s'est passé, qui a été quand même majeur pour l'école, c'est-à-dire le fait que j'écoutais ce matin le ministre de l'Éducation, qu'il y ait quand même eu des décrocheurs, comme on dit, il est important que il y ait une sorte de rattrapage qui puisse s'opérer. Mais je ne crois pas qu'on reviendra à ce que l'on a pu connaître. Parce que il faut bien voir que la démocratisation dont on parle, elle ne doit pas laisser subsister des inégalités. Parce que Quand on parle des comités d'entreprise, par exemple, et je m'en suis aperçu lorsque j'étais en charge, les comités d'entreprise n'existaient pas dans, n'existent pas dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ça n'est pas une obligation. Donc il y avait une inégalité dans cette volonté de rétablir, de lutter contre les inégalités, une inégalité supplémentaire. On n'a pas souvent pensé aux vacances des indépendants. Des commerçants, des artisans, des petits entrepreneurs, de tous ceux qui, des entreprises de moins de 20 salariés ou de moins de 50 salariés. Et c'est pour ça que lorsque je suis arrivé au gouvernement, j'ai souhaité que, par exemple, les chèques vacances soient ouverts à toutes les entreprises et pas seulement celles qui avaient un comité d'entreprise, parce que cela excluait de fait beaucoup de salariés de cette possibilité.
On va revenir sur cette question, Hervé Nomelli, mais peut-être encore un mot sur ces colonies de vacances qui semblent avoir de moins en moins de succès. Il y avait environ 4 millions d'enfants qui partaient en colonies de vacances chaque année au début des années 60. Il serait moins d'un million aujourd'hui. Est-ce que ce moindre succès est lié, comme vous le disiez, Saskia Cousin, à la diminution des aides de l'État?
Alors d'abord, juste pour, il y a toujours évidemment des projets pédagogiques dans les colonies de, dans les centres de vacances et les colonies de vacances, hein, ils sont comme pour les centres de loisirs. Enfin là, il y a des animateurs agréés qui font des études pour ça, et il y a par ailleurs des colonies de vacances privées ou associatives. Donc il y a toujours des colonies de vacances, et on ne peut pas faire de colonies de vacances si on n'a pas un projet pédagogique. Alors la baisse du départ en colonies de vacances pour les enfants, il y a une multitude de raisons, hein. Évidemment, il y a une baisse de confiance dans le collectif, et ça, c'est une question collective nationale, hein. Pourquoi et comment on confie ou on ne confie pas ses enfants au collectif, à une institution. Donc là il y a quelque chose d'important. Il y a aussi le coût d'une colonie de vacances, notamment pour les fratries. C'est, puisque ça n'est plus moins pris en charge, c'est très compliqué pour les classes moyennes de faire partir leurs fratries, c'est-à-dire certaines personnes peuvent avoir des aides notamment de la caisse d'allocation familiale, mais les classes moyennes ont du mal à faire partir leurs enfants en colonie de vacances. Et puis il y a eu cette espèce tous ces films, tout cet imaginaire de la colonie comme étant quelque chose de barbant, ridicule, etc., qui a participé aussi à délégitimer ces colonies de vacances. Et puis enfin, des enjeux financiers, c'est-à-dire les villes, les municipalités étaient vraiment il n'y avait pas que les comités d'entreprise, les villes ont fait partir des millions d'enfants, et puis au fur et à mesure, avec la crise, avec le changement de politique, les villes ont vendu leurs centres de vacances, notamment sur le littoral. Et donc l'offre, en fait, est passée d'une offre publique municipale ou syndicale à des centres des départs en colo très thématisés, s'adressant plutôt aux catégories supérieures.
Mais alors aujourd'hui, le secrétaire d'État Gabriel Attal annonce des mesures de soutien aux colonies de vacances. Est-ce que ce sont des mesures qui sont absolument nécessaires pour vous, Saskia Cousin, à l'heure où beaucoup de familles ont vu effectivement leurs revenus diminuer pendant le confinement, et aussi peut-être des mesures nécessaires pour la mixité sociale?
Oui, tout à fait. Après, ça dépend comment c'est organisé et si c'est, enfin, vers qui vont les aides. Mais effectivement, c'est indispensable parce que il faut se souvenir que voilà, un certain nombre de gens, et notamment les indépendants, les auto-entrepreneurs, Monsieur Novelli connaît bien la question. Il y a un certain nombre de gens qui ont perdu énormément de moyens, enfin, pendant, et qui pourront pas partir en vacances. Déjà, il y a 40% des gens qui ne partent pas en vacances l'été. Ça, il faut se souvenir. Ça, c'est structurel, voire 45. Donc là, il y a un certain nombre de familles qui ne pourront pas partir en vacances. Et donc, le fait de pouvoir envoyer leurs enfants en vacances, c'est quelque chose de très important. Il y a des centaines de centres de vacances qui peuvent accueillir des enfants en colonie, mais encore faut-il qu'il y ait un travail de promotion et d'aide aux familles, et notamment, je vous le disais, aux fratries, parce que vous avez c'est minimum 500, 600 euros par enfant, et si vous avez trois enfants et que vous êtes dans une situation compliquée, vous pouvez pas envoyer vos enfants en colonie de vacances. Donc évidemment, c'est très important.
C'est
aussi important de savoir ce qu'on va y faire.
Bien sûr.
Dans ces colonies.
Alors c'est un moment en tout cas pour l'État de revenir un peu dans le financement de ces colonies de vacances, là où il était peut-être un peu parti, Hervé Novelli.
Non, je crois que ce qui est important, c'est de réfléchir aux nouvelles vacances, à l'appétence des gens. Parce que ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'il n'y a pas qu'une question de pouvoir d'achat. S'il y a eu cette diminution très forte des colonies de vacances, c'est aussi parce que c'est plus dans l'air du temps. On peut pas impunément avoir la révolution numérique, le choix des vacances par Internet qui s'opère aux deux tiers aujourd'hui pour les Français, et puis vouloir que envoyer son enfant dans les colonies de vacances, je caricature un peu, mais dès des années 50. Donc il faut réfléchir à ce que pourrait être des vacances qui plaisent à nouveau et qui suscitent un engouement. Et pour l'instant, on est, je crois, à une réflexion assez faible.
Au tout début de la réflexion.
Moi, je suis vraiment partisan de mettre le paquet sur ça, mais de le mettre en prenant en compte ce goût particulier, cette individualisation des goûts qui est rendue possible par tout ce que l'on peut faire aujourd'hui. Donc, c'est plutôt vers une aide personnalisée, vraiment un soutien personnalisé, adapté, qu'il faut se tourner plutôt que de vouloir refaire ce qui a été un temps très utile, mais qui n'est plus adapté.
Comment l'État peut-il soutenir l'industrie du tourisme frappée par la crise et permettre un accès toujours plus large aux vacances? On continue à en parler dans un instant, mais d'abord Charles Trenet nous emmène sur la Nationale 7.
France Culture, entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7.
C'était Route Nationale 7 de Charles Trenet sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Suite de notre discussion sur le tourisme social en France, nous sommes toujours en compagnie de l'ancien secrétaire d'État au tourisme Hervé Novelli et de l'anthropologue Saskia Cousin. Alors, si l'État a développé le tourisme social, on a vu qu'il y avait une volonté pédagogique qui pouvait exister, mais il y a aussi et peut-être surtout la volonté de développer les territoires. C'est une source essentielle de revenus pour les territoires, Hervé Novelli ?
Le tourisme est évidemment, vous avez rappelé les chiffres, est évidemment producteur de richesses. 7% du produit intérieur brut, c'est énorme. C'est plus important que l'automobile. Et donc, le tourisme est un facteur, y compris et souvent, d'aménagement et d'activité territoriale. Aujourd'hui, malheureusement, 80% des touristes, c'est la règle des 80-20, visitent 20% de notre territoire. Mmh. Mais le tourisme social, lui, il est plus diffus. J'allais dire, et il s'étend sur des territoires ruraux, notamment à la campagne ou à la montagne, et c'est donc important. Ce que l'on peut faire à partir de ce drame qu'a été le Covid, c'est vraiment à réfléchir à cette capacité qui pourrait être donnée d'activité territoriale à partir de politiques un peu plus incitatives vers ces territoires. Je pense notamment à des politiques de financement des fonds propres de ces entreprises hôtelières, de restauration, qui sont souvent faibles en matière de fonds propres et qui ont besoin d'être accompagnées par les pouvoirs publics. Et c'est en plus une nouvelle manière de voir l'aménagement du territoire. Donc j'y suis très favorable.
Le tourisme social pourrait permettre, s'il était relancé, de redynamiser certains territoires, c'est ce qui est cousin, et de créer un certain nombre d'emplois parce qu'il est particulièrement créateur d'emplois.
Alors, si on parle de politique sociale du tourisme, ce qui n'est pas la même chose. Le tourisme social, ça correspond à certaines structures, certaines associations, l'UNAT par exemple. Donc, des politiques sociales du tourisme, oui, il y a eu des politiques, en fait, touristiques, d'aménagement dans les années 60. Et puis, il y a eu des politiques incitatives de redistribution, en fait, des touristes, enfin, ou de la demande ou d'incitation à aller dans d'autres territoires. Ça a été le cas essentiellement entre 97 et 2002, pendant le secrétariat d'État de Michel de Messine. Donc là, il y avait eu une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on redistribue l'offre. Enfin, en tout cas, on incite en fait à avoir des pratiques sur l'ensemble du territoire. Mais je voudrais juste revenir sur le fait que la diversité des formules, le fait de vouloir avoir des différents types de départs pour différentes formules, ça, c'est certaines catégories sociales, mais là encore une fois, la majorité des Français, la première motivation, c'est se reposer et se retrouver en famille, et 50% des Français partent dans de l'hébergement non marchand. Donc il y a quelque chose en fait de structurel dans le départ en vacances, qui est les retrouvailles entre amis, le repos du travailleur. Les vacances d'été, c'est un peu comme dans les sociétés traditionnelles, c'est la moisson, on récolte le fruit de ce travail. Et ça, dans la société salariée, mais aussi dans l'ensemble des sociétés, ce moment-là, ce moment où on se pose et on se repose et on se retrouve soi, collectivement, en famille, je pense que c'est très important à ne pas oublier, parce que la diversification des formules et des départs, ça touche en fait une petite partie des départs et des motivations, et ça vient loin derrière les motivations des Français.
C'est important ce que vous dites sur les motivations, Saskia Cousin. Effectivement, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit que selon le milieu social, il y a soit une volonté, enfin en tout cas on voit les vacances comme un repos, ou on voit les vacances comme une possibilité d'évasion. Ça c'est pour les classes sociales plus aisées.
Oui, effectivement, et c'est très important de prendre ça en compte et de comprendre à qui on s'adresse en termes de politique publique. Et si on a une politique sociale du tourisme, il faut s'adresser donc aux personnes qui sinon auraient des difficultés à partir. Et on sait que ces personnes, si on s'intéresse à ce qui les intéresse, ce qu'ils veulent d'abord, c'est se reposer et se retrouver. Après, notamment des mois passés dans les grandes villes, dans une situation confinée, avec des enfants, où on n'a pas pu voir les grands-parents, etc., il est fort probable que la première motivation va être encore plus fort, qui est de retrouver sa famille, de retrouver ses amis, et de sortir de chez soi, puisque pendant plusieurs mois, on a eu à la fois un chez soi où il n'y avait plus de rupture entre le travail et le domicile, entre l'école et le domicile. Il y avait donc il faut s'attendre à ça, et en fait une politique publique, une politique sociale du tourisme, c'est aussi prendre en compte les désirs des gens. Donc ça, je pense que c'est très important à ne pas oublier. Ça n'arrange pas l'industrie du tourisme, notamment les agences de voyage, que ça soit en France, ou l'industrie du tourisme des visites, mais la première chose que font les gens, c'est partir chez des amis, dans la famille, et se retrouver. Et ne rien faire, en fait. Mais ne rien faire, c'est l'osium, c'est passer du temps avec sa famille et ses amis, récolter le fruit de son travail.
Un dernier mot, peut-être, avec vous, Hervé Novelli, sur le rôle de l'État aménageur. L'action de l'État est passée par la mise en œuvre de 3 plans d'aménagement du littoral et de la montagne dans les années 60.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette dimension d'aménagement du territoire, notamment pour développer le tourisme et les activités de loisirs. Ça a très bien marché, ça a été une politique volontariste qui correspondait à l'émergence de la délégation à l'aménagement du territoire, de la DATAR et du grand plan d'équipement qui a été porté à ce moment-là. Aujourd'hui, force est de reconnaître que ces impératifs ont largement disparu. Les soutiens, les primes à l'aménagement du territoire, tout cet arsenal n'est plus aujourd'hui très puissant. Et donc, il y a toute une réflexion certainement à avoir sur un nouvel impératif d'aménagement.
C'est important de souligner que à l'époque, les villages de vacances ont joué un rôle important dans le fait qu'un certain nombre de Français ont pu partir en vacances. Je vous propose d'écouter André Guignan, le fondateur de VVF Village Vacances Famille, l'association qui a donc été créée en 1959.
C'était participer à l'aménagement du territoire. Ça devenait à la mode à l'époque. Ça devenait à la mode. La France très centralisée commençait à parler des centralisations. Il y avait des régions riches et des régions pauvres. Et c'est là que se sont créés pas mal d'organismes chargés de l'aménagement du territoire. Vous aviez des compagnies régionales de mise en valeur, Baronne-Languedoc, les Coteaux des Landes, l'Auvergne-Limousin. Ça faisait partie, tout ça, de l'aménagement du territoire. J'avais pensé que nous nous inscririons dans cette politique d'aménagement du territoire, et c'est ce que nous avons fait. Et je ne vous dirai pas combien de candidats, plus de 500 communes, tout à coup ayant appris l'existence de VVF, voulaient avoir un village de vacances. Nous en avons fait quand même 130 dans 58 départements, et plus de la moitié sont dans des communes rurales. Nous avons participé par ailleurs en bord de mer, au démarrage de stations qui n'ont jamais été inscrites dans aucun plan. C'est le cas de Seignos dans les Landes, où VVF a sa plus grosse concentration, mais sur plusieurs kilomètres, de villages de vacances.
Saskia Cousin, l'association VVF a joué un rôle essentiel dans les années 60 dans l'aménagement du territoire.
Alors, elle a joué un rôle très important aux côtés d'autres, et notamment des centres de vacances issus des comités d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une constellation, en fait, d'aménagement de centres de vacances, celui-ci étant un parapublic, en fait. Il a été créé avec l'aide de la Caisse des dépôts, de la Caisse d'allocation familiale. Voilà, c'est une association qui est finalement une structure qui a été pensée comme effectivement une politique sociale du tourisme qui a été pensée par l'État. Et c'est pas si fréquent parce qu'en fait les autres centres de vacances sont plutôt liés au monde syndicaux et étaient beaucoup plus anciens. Donc oui, c'est important, mais finalement VVS s'installe à Seignos, dit son fondateur, parce qu'en fait, il y a l'échec du plan d'aménagement qui avait réussi dans le Languedoc, qui a échoué en Aquitaine. Et puis, finalement, on reprend par une autre manière, par le biais des centres de vacances, cet aménagement du territoire. Juste pour souligner quand même que depuis toujours, contrairement à la culture, le tourisme est d'abord produit, aménagé, pensé par les collectivités locales. C'est d'abord une histoire de collectivités locales, de notables, de petits entrepreneurs privés qui ont mis en place le tourisme en France. Et c'est, l'État a toujours été un État faible en ce qui concerne le tourisme, il ne faut pas l'oublier.
Et alors, où en est aujourd'hui VVF, Saskia Cousin? Est-ce que le groupe a été privatisé partiellement en 2006 avec une scission qui a donné naissance au groupe Bellambra?
Oui, alors je connais pas parfaitement cette histoire, mais oui, ça a changé de nom, c'est devenu une marque, voilà, c'est devenu une entreprise d'utilité sociale, je crois, voilà, donc c'est ils ont aussi un bureau d'ingénierie, enfin voilà, il y a une forme de diversification de l'offre, c'est une marque commerciale, voilà, ils ont également des campings, donc c'est les enjeux de départ qui étaient finalement l'accès aux vacances pour tous ont légèrement changé. Là, ils sont dans une logique de croissance, d'acquisition, voilà.
Et peut-être parce que la Caisse des dépôts est
consignée. Ça a été privatisé en 2006, ouais.
Peut-être parce que la Caisse des dépôts et consignations s'est aussi largement retirée des clubs de vacances. Elle avait joué un rôle de premier plan, Hervé Novelli, dans les politiques sociales du tourisme.
Oui, bien sûr. La Caisse des dépôts a joué et continue de jouer un rôle très important dans le tourisme et notamment dans le tourisme social. Et c'est très bien ainsi. Et cette la Caisse des dépôts a présidé à la création de ce fonds dont je parlais, qui est le fonds d'investissement dans le tourisme social, que j'avais eu l'opportunité d'annoncer, dont j'avais eu l'opportunité d'annoncer la création lorsque j'étais en charge, c'est-à-dire maintenant il y a 10 ans, dont j'ai eu le bonheur de voir que 10 ans après, finalement, il existait. Donc c'est dire si ça a mis du temps, mais aujourd'hui, il y a un fonds qui est destiné au tourisme social, porté par la Caisse et d'autres investisseurs, et qui permet de moderniser un certain nombre d'infrastructures. Et c'est important, puisque nombre des organismes sont à but non lucratif, donc il faut certainement parfois les accompagner dans la modernisation des équipements. Et la Caisse des dépôts me semble parfaitement désignée.
On l'a évoqué tout à l'heure, il faut peut-être entrer un peu plus en détail sur le rôle essentiel des chèques vacances dans ce tourisme pour tous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Hervé Novelli, quand est-ce qu'ils ont été créés et quel était leur objectif de départ ?
Les chèques vacances sont liés à l'Agence nationale des chèques vacances de manière très logique, créée, je crois, en 1982, à partir du ministère du temps libre, donc après la victoire et l'élection à la présidence de la République de François Mitterrand. Et cette Agence nationale des chèques vacances, eh bien, s'est développée à partir de l'émission et du monopole de l'émission de chèques vacances qui sont abondés par les entreprises ou les pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de fonctionnaires et qui permettent ainsi de diminuer le coût des vacances pour ceux qui en sont destinataires. Donc c'est une belle politique, me semble-t-il. En tout cas, je l'ai soutenue et j'ai voulu faire en sorte, je le disais, qu'elle soit encore plus étendue. Parce que la réalité, et je veux parler aussi de cette inégalité, c'est que les comités d'entreprise, le chèque vacances... Pardon, le chèque vacances est distribué par les comités d'entreprise et il est évidemment important dans la fonction publique. Mais pour tout le reste, et le reste n'est pas négligeable, il y avait donc impossibilité de se voir attribuer des chèques vacances. Et je pense que la démocratisation des chèques vacances, c'est-à-dire le chèque vacances pour tous, qu'il soit salarié ou non, et qu'il soit dans une grande entreprise ou dans la fonction publique ou non, me semble être une des voies pour porter cette politique sociale du tourisme.
Une première étape, ça a été effectivement d'étendre ces chèques vacances aux petites et moyennes entreprises. Je vous propose d'écouter à ce sujet Guy Matteudy. Il était président de l'Agence nationale des chèques vacances et il s'exprimait sur France Inter le 24 février 1999.
Les entreprises qui n'ont pas aujourd'hui de comité d'entreprise pourront en bénéficier. Il s'agit d'entreprises en général de moins de 50 salariés, les petites et moyennes entreprises, les PMI, les TPE, les très petites entreprises. Elles pourront donc en bénéficier sous réserve donc de l'adhésion de l'employeur, sachant que si jusqu'à présent elles ne pouvaient pas mettre en place le chèque vacances, c'est parce que l'employeur n'était pas exonéré de charges sociales sur l'abondement, sur le plus qu'il donnait aux salariés pour partir en vacances. La loi prévoit exactement qu'il y aura exonération de charges pour les employeurs des petites et moyennes entreprises qui adhéreraient au système. 7,5 millions de personnes dans ce secteur professionnel, donc c'est beaucoup de personnes qui n'ont pas aujourd'hui le droit au chèque vacances. Je pense que globalement, dans un premier temps, on pourrait tabler sur les 3-4 années qui viennent, 5 années qui viennent, l'attribution de chèque vacances pour 1 million de personnes. Et à très court terme, on pourrait se donner un objectif sur un an et demi, de 150 000 personnes bénéficiaires.
10 ans plus tard, en tant que secrétaire d'État chargé en charge du tourisme, Hervé Novelli, vous avez donc cherché à étendre un peu le dispositif et c'est passé notamment par le biais de partenariats avec des entreprises privées.
Oui, lorsque le directeur de l'Agence nationale des chèques vacances parle, on est en 1999, vous l'avez rappelé, l'officialisation Le passage par la loi, je le sais, puisque c'est moi qui l'ai porté, c'est en 2007. Et donc on voit bien qu'il y a déjà eu une hystérésis, comme disent les mathématiciens, c'est-à-dire un long temps avant que tout cela ne se matérialise. Et ensuite j'ai voulu accélérer ce tempo et faire en sorte que d'autres opérateurs puissent distribuer, donc par le biais de conventions avec l'Agence nationale des chèques vacances, puissent être des agents commerciaux pour aller dans les entreprises et proposer les chèques vacances de la NCV.
Est-ce que ces partenariats ont permis d'élargir cet accès aux vacances et au départ en vacances pour les Français, Saskia Cousin ?
Oui, alors je ne sais pas si c'est le partenariat, mais ce qui est sûr, c'est que enfin, le modèle de la NCV avec ses différentes évolutions et bon a été notamment critiqué par la Cour des comptes, mais le modèle, en fait, l'idée qui est d'avoir des chèques comme il y a des chèques restaurants, c'est donc le passage de l'aide à la pierre à l'aide à la personne, et ça permet tous les ans, par exemple, moi j'ai travaillé notamment à Saint-Denis, sur et aussi avec des personnes dans des centres de vacances, ces chèques vacances permettaient justement d'accéder, de prendre le train, d'accéder, d'aller à la campagne, voilà, donc il y a un certain nombre de gens qui effectivement, mais c'est un soutien, c'est-à-dire il faut déjà avoir, on va dire, être socialisé aux vacances. C'est-à-dire pour pouvoir utiliser ces chèques vacances, il faut déjà avoir l'idée de qu'est-ce que ça veut dire partir en vacances, comment on part en vacances. Et ça veut dire que ça ne touche pas les personnes les plus en difficulté, à laquelle il faudrait une politique sociale du tourisme adaptée. Et puis, c'est un complément, parce que ça ne finance jamais toutes les vacances. Et donc, pour les discussions que j'ai eues, c'est des gens qui ont déjà un certain niveau de revenus qui vont pouvoir prendre le train ou avoir des extras, aller au restaurant avec les chèques vacances, etc. Ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas les moyens, ça ne financera pas, ça ne permettra pas le départ en vacances de la même manière que d'autres modes de financement par la caisse d'allocation familiale. Ça s'adresse à une partie de la population.
Bien sûr, ça ne s'adresse pas à la totalité de la population, de celle qui malheureusement n'est jamais partie en vacances. Il s'agit d'amélioration et d'élargissement. Et je dois dire que ce qui a été fait, pour prêcher pour ma paroisse, parce que après ça a continué, donc il y a une croissance à deux chiffres de la distribution de chèques vacances, notamment dans les PME, et ça c'est vraiment une grande satisfaction. Je pense que l'agence peut être vraiment un outil très important pour dans ce schéma d'individualisation des vacances, permettre le choix à travers une distribution de ces chèques vacances beaucoup plus intense que ça n'est aujourd'hui. Je voudrais insister sur le rôle de l'agence et notamment de son action sociale, parce que les profits qu'elle dégage, eh bien, elle les attribue à des aides sociales et des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes aujourd'hui, chaque année, partent grâce aux subventions de l'Agence nationale des chèques vacances.
Ce qui rend aussi peut-être difficile l'accès aux vacances, Saskia Cousin, c'est la montée en gamme de l'industrie touristique. C'est un phénomène que l'on observe sur le temps long.
Alors oui, en tout cas la montée en gamme en France, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont préférer partir notamment au Maghreb ou en Europe centrale, parce que finalement il y a notamment par exemple dans les campings, cette montée en gamme fait qu'une certaine partie de la population n'a plus accès aux vacances en France. Et donc et c'est une question sociale, c'est une question politique, c'est une question économique, c'est aussi une question, on va dire, collective. Monsieur Novelli l'a rappelé plusieurs fois, ces politiques, elles visent à l'individualisation de l'accès aux vacances. Et ça va aussi avec la désaffection des colonies. Voilà. Moi, en tant qu'anthropologue, ça me pose problème, parce qu'il me semble que les vacances sont aussi une manière de faire collectif et qu'un État, des politiques publiques, elles visent aussi à reconstruire du lien social et à faire du collectif. Et donc, c'est pas du tout que je sois contre l'idée que des personnes puissent bénéficier à titre individuel d'une aide, mais je pense que ces moments-là sont aussi des moments où on peut collectivement produire un
du lien social, et je pense qu'actuellement on pourrait, ça pourrait être, on va dire, nécessaire. Donc voilà.
Vous avez le sentiment peut-être que l'État a une vision du tourisme qui est peut-être plus tournée vers les visiteurs étrangers. On sait évidemment que c'est une manne économique considérable, et d'ailleurs le tourisme a été rattaché au ministère des Affaires étrangères en 2014. Quel regard est-ce que vous posez sur cette décision, Hervé Novelli?
Je n'étais pas favorable à cela, parce que je pensais que l'activité touristique, c'est l'activité des entreprises du tourisme. Et de ce point de vue, ça me semblait plus pertinent que l'activité touristique soit rattachée, comme elle l'était lorsque j'étais en charge de ces responsabilités, qu'elle soit rattachée au ministère de l'économie. Dont acte, ça a été fait, et maintenant il y a une double tutelle, économie et Quai d'Orsay, qui peut parfois être source de brouillage, friction, ou en tout cas peut-être retard à la décision, mais ça n'est pas le plus important. Ce qui me semble le plus important, ce sont les mouvements tels qu'ils s'observent au niveau français, bien sûr, mais au niveau européen, voire mondial. C'est-à-dire cette montée en gamme dont vous avez parlé, elle n'est pas l'action de la France uniquement. Elle se passe en Espagne, en Italie. Et cette aspiration, elle est l'aspiration à des vacances qui peuvent être plus courtes. On va choisir, et c'était un sondage qui m'avait beaucoup frappé, dans le comportement des Français, certains Français vont choisir, alors qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour avoir 3 semaines dans un établissement, 4 voire 5 étals, vont choisir plutôt une semaine dans un établissement classé de très bonne qualité, parce que c'est cette aspiration à une qualité d'accueil qu'il recherche.
On entend bien que les aspirations changent et que l'offre de tourisme a changé également. Est-ce qu'avec la crise de la Covid-19, on pourrait aujourd'hui revenir ou inventer une nouvelle politique sociale en matière de tourisme, Saskia Cousin? On arrive presque à la fin de cette émission.
Je pense qu'il faut l'inventer. Enfin, là, c'est la pandémie, c'est une alerte, en fait, c'est une alerte. Mais on a des indicateurs, une façon de penser. C'est le passage au ministère des Affaires étrangères, où le tourisme est pensé comme un marché de l'exportation et de finalement faire venir des devises étrangères. Ce qui est drôle, puisque ça rappelle les politiques financières des pays destination des pays en voie de développement touristique dans les années 60. Mais bref, là, il faut repenser les choses, parce que en fait, si on fonctionne avec des indicateurs qui sont l'industrie aérienne et l'hôtellerie internationale, alors, à cette première année de la pandémie, on est dans une période de réchauffement climatique. Donc si on ne repense pas les politiques publiques, les entreprises privées du tourisme, oui, ça va être très compliqué, parce que ça n'est que le début de l'histoire de la fin d'un modèle, en fait, qui risque de s'essouffler avec cette pandémie, mais d'autres phénomènes comme le réchauffement climatique.
Une nécessité de repenser, effectivement, avec la crise environnementale, avec la crise sanitaire, ce modèle touristique, Hervé Novelli, en quelques
secondes. Oui, c'est une réelle opportunité, et je pense que il y a des outils pour cela, mais qui s'inscrivent dans un courant global qui est les vacances que chacun souhaite et non pas celles que l'État ou une autre institution voudrait lui imposer ou lui souhaiter à sa place.
Un grand merci Hervé Novelli et Saskia Cousin d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Seria-Brand et Thibaut Affringue, à la réalisation Véronique Villa, à la console aujourd'hui Ludovic Auger. On se quitte avec le titre de Matt Gold, Queen Anne.
Dressed in my uncertainty, the only faith I've found.
Demain, on parlera de la course au soleil en Europe avec le géographe Philippe Viollier, l'historien Laurent Tissot.
En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Dans une heure, vous retrouverez la méthode scientifique présentée par Nicolas Martin. Mais d'abord, dans un instant, ce sera l'heure de la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Labrange.